Du campus Lille, il est midi.
Yalla yalla.
Salut, lundi, midi, c'est l'heure des points sur les i.
Point barre.
Avec les camarades de l'association Davids, déploiement de l'art vital intersubjectif qui déconstruit sur la brèche. Davids contre Goliath.
Vous avez vraiment des manières que j'adore.
Ça commence à se savoir. Ça commence à se savoir. Et il y a des incendies qui s'allument dans certains endroits parce qu'il fait trop froid. Traducteur, traduisez. Mais n'ayez pas peur. On sait ce que c'est que la radio.
Bonjour, il est lundi midi, c'est l'heure des points sur les i.
Point barre. Avec moi dans les studios, Baptiste.
Salut.
Bonjour.
Salut à tous, salut à toutes. Et au programme aujourd'hui, eh bien, je vais peut-être commencer immédiatement avec une chronique des centres de rétention. D'abord, eh bien, je vais vous parler d'une lutte qui a lieu dans le centre de rétention de Oissel. Oissel, c'est à côté de Rouen. Et depuis le 18 janvier, eh bien, les prisonniers, qu'on dénomme par un euphémisme les retenus, puisque les centres de rétention, donc, je le rappelle, ce sont vraiment des prisons pour étrangers qui d'ailleurs ont ou pas des papiers, hein, puisque se retrouvent dans ces lieux des personnes notamment dublinées en fin de procédure, donc qui sont parfaitement légales dans leur situation, mais qui se retrouvent quand même en centre de rétention parce qu'on les y enferme, les flics et l'État les y enferme parce que ils sont soupçonnés de fuir le moment où on décidera de les renvoyer dans le pays européen où a été pris pour la première fois leurs empreintes, ce qui est donc le cadre des accords Dublin qui font qu'une personne doit demander l'asile dans le premier pays européen ayant signé les accords Dublin dans lequel ses empreintes ont été prises. Alors le centre de rétention de Oissel, eh ben, il est connu hein, depuis plusieurs années pour être un endroit où les flics sont particulièrement violents et tiennent des propos et ont des attitudes racistes. Déjà, l'Observatoire des lieux de privation de liberté avait souligné cet aspect violent et raciste dès 2017.
Ça s'écrit comment Oissel? C'est où précisément?
Donc c'est à côté de Rouen. Et Oissel, c'est O-I-2-S-E-L. D'ailleurs, donc il y avait déjà eu plusieurs fois des luttes hein, dans ce centre de rétention, notamment en janvier 2019, une grève de la faim. Au mois d'avril, il avait en partie brûlé après cette grève de la faim par donc des prisonniers qui l'avaient mise en œuvre. Et il faut savoir donc que c'était le 18 janvier dernier, eh bien, un prisonnier qui avait été emmené au mitard en isolement est revenu avec des bleus partout, avec des ecchymoses, ce qui a mis extrêmement en colère et a fait peur, à la fois un mélange de peur et de colère à l'ensemble des prisonniers du centre. Et d'autant que ça s'est suivi par de nombreuses pressions sur les prisonniers par les matons. Donc, le mercredi 22 janvier, 42 prisonniers donc de la section hommes du centre de rétention d'Oissel se sont mis en grève de la faim. Depuis le 22 janvier, ils ont sorti 4 communiqués qu'on peut trouver sur le blog abalekra.noblog.org, c'est ça, merci Baptiste. Abalekra, A-B-A-S-L-E-S-C-R-A, tout attaché, .noblog.org. Donc vous retrouverez sur ce site, animé par des camarades lyonnais, l'ensemble des communiqués. Mais tout de suite, ce que je vous propose, c'est d'écouter l'un des prisonniers du centre de rétention de Oissel, dont vous pouvez écouter l'interview téléphonique dans son intégralité sur le site de l'Envolée lors de la dernière émission du 31 janvier, au cours de laquelle il était interviewé. Là, j'ai fait, à partir de cette interview, un montage de quelques minutes que je vous invite tout de suite à découvrir sur Radio Campus.
Ouais, si ça te va, on pourrait commencer par le samedi 18.
Ouais, c'est commencé dernièrement parce qu'on a commencé à réclamer tout ce qui est violence, l'isolement. Et il y a des gens qui vont à l'isolement, ils reviennent avec tout bleu, il y a des cicatrices partout et tout. Après, ça donne stress, ça stresse tout le monde dans le centre. Même si ça, il y a des gens qui peurent, il y a des cauchemars ici, il y a des gens qui mangent des cauchemars ici dans le centre. Et du coup, on a tout parlé, on a fait une grève générale, le grève à la fin, on ne voulait pas manger et tout. Après eux, il y a certains policiers qui n'ont pas accepté cette grève et tout. Ben, ils ont commencé à être violents plus en plus.
Ok.
Et du coup, il y en a un gars qu'ils ont transféré à cause de ce problème-là. Il est transféré au centre de rétention de Rennes. Ils sont tous les matins, ils font des fouilles partout, ils font des fouilles quasi, ils mettent nos habits par terre et ils mettent de tout partout. Et même ils jettent des livres, tous.
Et du coup, pour reprendre un peu, donc samedi, ce que tu disais, c'est qu'ils ont mis à l'isolement là, des gens violemment, c'est ça?
Ouais, même moi, je parle de moi, maman, ils m'ont mis à l'isolement. C'était pour rien du tout, c'était juste, j'ai réclamé juste pour la bouffe et tout, ils m'ont mis à l'isolement, ils m'ont mis à l'étape, ils m'ont scotché partout, ils m'ont tapé et tout, et moi je réclame pour qui, je disais, ouais.
Et t'es resté...
Je peux parler à personne en fait, il n'y a pas de chef, il n'y a rien, tout le monde est dit, c'est moi le chef ici, ils sont tous violents.
Et toi t'es resté combien de temps au mitard?
Moi, il y a une fois, j'ai resté 24 heures, une fois, j'ai resté 12 heures, une fois, j'ai resté 4 heures. Trois fois que j'ai fait l'isolement.
Et à chaque fois, ils t'ont scotché et casqué?
Ouais, à chaque fois, ils m'ont scotché. Si je parle, ils me disent, ouais, t'es pas calme, là, tu vas te mettre un casque. Si tu restes comme ça, on va te mettre un autre scotch. Et je demande, il faut que tu me viennes parler, si quelqu'un te mettra à l'isolement, il faut que tu saches pourquoi t'es à l'isolement. C'est pas comme ça, l'isolement. Il faut qu'ils viennent me voir et me dire pourquoi je suis là, et à cause de ça, à cause de ci. Mais eux, ils veulent même pas te parler. Si moi, je trouve ils sont tous pareils. Ils te provoquent pour te sortir ta nervosité. Après que tu énerves comme ça et que tu mettes les hommes, vous voyez ou pas?
Yes. Et...
Soit il y a un truc. Mon problème, comment il a révélé mon problème à moi? Il y a un policier, il me dit, une fois j'étais à j'ai fait deux jours dans le centre, j'ai passé JLD. J'étais avec un policier sur la dans le véhicule, ici on est en route. Ce qu'il me dit, le policier, il me dit, ouais, soit tu vois, t'es quelqu'un bien et tout, viens travailler avec moi, tu me dis, qu'est-ce qui se passe dans le centre? Il dit, monsieur, c'est pas moi à faire, ça c'est votre travail, ça, c'est pas moi à dire qu'est-ce qui se passe dans le centre. Moi, je peux pas te dire quelqu'un il a ça, quelqu'un il a ci, quelqu'un il filme, quelqu'un il filme pas. Il dit, non, moi, c'est des gars qui font ça, c'était normal et tout. Il dit, non, moi, c'est pas comme si, maintenant, moi, c'est comme ça. Il dit, alors, tu vas voir la misère avec moi. Ben, c'est vrai, à chaque fois, il m'insulte. À chaque fois, il me provoque, à chaque fois, il me met à l'isolement. Depuis que je suis ici, il me met à l'isolement à chaque fois de ce problème-là.
Et vous, vous essayez de réagir comment, du coup?
Bah, franchement, chef, moi, avant, j'étais nerveux et tout, mais maintenant, je commence à être calme et tout. Yes. Parce que ça fait 70 jours que je suis là, c'est toujours pareil, c'est toujours si tu parles, t'es à l'isolement, non, c'est maintenant je parle plus, et vas-y, ils font leur truc, et moi je reste à mon côté, ils veulent ce qu'ils veulent, et moi je reste à mon côté, parce que en fait, j'ai peur de l'isolement, parce que j'arrive pas à rester à l'isolement, moi. Ici, on est en prison, si tu mets à l'isolement, c'est pire que les prison. Alors, moi, je dis que je reste à ma place et ils font ce qu'ils veulent. Et moi, je reste calme, c'est tout. Mais il y a des gens qui pètent les plombs et tout. Mais ils ont raison de péter les plombs. Ils ont bien raison. Mais par contre, c'est eux qui cherchent ça. Ils cherchent jusqu'au bout.
Hier ou avant-hier, vous avez sorti un communiqué sur France Terre d'Asile. Est-ce que tu crois que tu pourras expliquer un peu pourquoi vous avez demandé à ce que France Terre d'Asile quitte le centre?
Ah, franchement, avec moi, je passe pas trop au bureau de France Terre d'Asile.
Ok. Et pourquoi?
Je sais pas, parce que je trouve qu'ils ont pas trop de pouvoir. Ils ont pas trop de pouvoir pour... Ils peuvent rien faire, hein, parce que la chambre d'isolement, c'est juste à côté de leur bureau.
Ouais, du coup, tout ce que t'as raconté, en fait, eux, ils le voient tous les jours.
Exactement.
Donc, en fait...
Ils voient plus que nous. Il y a des trucs, le bureau de France Terre d'Asile, ils le voient plus que nous, parce que nous, on est dans le centre, le bureau de France Terre d'Asile, il est collé avec l'isolement. Alors, ils savent, ils entendent des voix, ils entendent les cris, et tout, ils entendent tout.
Ok. Et ça, ils le disent jamais dehors. Donc, en fait, ils protègent la police, quoi.
Vous venez d'entendre un prisonnier du centre de rétention de Wassel, donc où je rappelle une lutte des prisonniers a commencé depuis le 22 janvier dernier. Vous pouvez écouter l'intégralité de cette interview sur le site de L'Envolée. L'Envolée, c'est à la fois une émission de radio sur Fréquence Paris Pluriel tous les vendredis à 19h. Et vous pouvez écouter cette émission donc du 31 janvier sur leur site l'envolée.net. Je voudrais préciser aussi que à part donc l'Envolée, eh bien les médias qui parlent de Wassel, hein, on peut trouver quelques articles, notamment dans Ouest France, n'évoquent jamais les communiqués des prisonniers. Ils ne relaient que la parole des associations, des députés, parce qu'il y a suite à cette lutte, il y a un député qui est venu, qui s'est rendu dans le centre de rétention. D'ailleurs, dans un autre passage de l'interview, eh bien la personne, le prisonnier de Wassel, expliquait que suite à ce passage, ils ont subi une répression accrue, car les flics leur reprochaient d'avoir parlé aux députés et aux médias et d'avoir dénoncé leurs conditions de rétention. Donc, c'est quand même très important d'entendre ça. Et je reviens donc aux médias qui ne relaient pas les communiqués, mais uniquement la parole des associations, des députés, de la police, de la préfecture, mais jamais celle des prisonniers, encore moins si cette parole est collective. Je vais simplement, concernant Wassel, eh bien, vous lire le quatrième communiqué qu'ils ont réussi à faire sortir du centre et qui, je le rappelle, est consultable sur le site abalekra.noblog.org. Quatrième communiqué du collectif des prisonniers de Wassel. Concernant les retenus qui ont été tabassés et ont déposé plainte, nous réclamons que toute la lumière soit faite sur ces actes. Nous réclamons de plus la fin de tous les actes de violence et de maltraitance à notre égard. À l'heure qu'il est, on ne voit aucun changement au niveau de nos revendications depuis le début du mouvement. Le collectif des personnes retenues poursuivra sa mobilisation pour plus de justice sociale, pour des conditions de rétention dignes, sans se laisser intimider par des actes de violence ou des insultes. Toujours à propos de France Terre d'Asile. Donc France Terre d'Asile, c'est l'association qui est présente à l'intérieur du centre de rétention de Wassel, ainsi que dans d'autres centres de rétention. Le collectif en est venu à demander le départ des personnes la représentant actuellement au centre de rétention administrative de Wassel. Nous estimons que rien n'a été mis en place pour nous défendre depuis le début de notre mouvement et que ces personnes sont de plus en plus partisanes de la préfecture et des méthodes de gestion du centre. La promenade est organisée au moment du nettoyage des chambres de 10h30 à 11h, ce qui la rend toujours compliquée. Sachez aussi que les douches dans les chambres n'ont pas d'eau chaude. Les retenus se sont plaints à maintes reprises auprès de l'association France Terre d'Asile, mais en vain. Il y a aussi des retenus qui font la totalité des 90 jours de rétention. Ici, il n'y a pas d'activité, à part la salle de télé, et souvent, il y a de la tension pour les chaînes. Nous ne comprenons pas, car il y a une autre salle de télévision, pardon, mais elle reste toujours fermée à clé. La promenade, elle, n'est pas toujours régulière, et c'est ce qui cause aussi une tension entre retenus et les policiers. Contrairement à ce qui a été dit par le commandant de police du CRA de Wassel dans la presse, si la durée de la rétention est passée de 45 à 90 jours depuis la nouvelle loi, la loi Asile et Immigration, il faut savoir qu'une personne retenue reste ici de 1 à 2 mois environ et non pas 15 jours en moyenne. Nous voulons voir... Voilà, signé, excusez-moi, par donc, le collectif des retenus en lutte, des prisonniers en lutte du centre de rétention de Wassel. Je voudrais également évoquer, parler maintenant des évasions qui ont eu lieu depuis le début de l'année. Tentative d'évasion à Rennes le mercredi 29 janvier, mais les deux personnes qui avaient tenté de s'évader du centre de rétention administratif de Saint-Jacques-de-la-Lande, juste à côté de Rennes, ont été malheureusement rattrapées au cours de l'audience, parce qu'ils sont passés en comparution immédiate, mais suite à la grève des avocats n'étant pas représentée, l'audience n'a pas eu lieu. Ils ont cependant tenu à s'exprimer et ont dénoncé des conditions de rétention complètement inhumaines. Certains policiers nous traitent comme des animaux, disent-ils. Ils évitent des violences régulières et ils disent s'être évadés par peur de devenir fous. Ils sont allés pour s'évader, il faut le savoir, escalader à main nue des barbelés. Et je tiens également à souligner que, en décembre, il y a un retenu du centre de rétention de Rennes qui a tenté de se suicider et est mort quelques jours plus tard à l'hôpital des suites de ses blessures. Mais certaines évasions, réussissent. Et là, c'était à Nice le 25 janvier 2020. Six étrangers ont réussi à s'échapper du centre de rétention de Nice. Il y avait déjà eu une évasion collective également de six prisonniers en 2018. Ils ont réussi à s'évader parce que le système d'alarme était défectueux et ils ont donc scié le barreau d'une fenêtre. Et donc en 2018, alors il y avait eu une tentative de 6 personnes, mais cinq avaient réussi à s'échapper. Le sixième s'était fait attraper. Et puis plus près de nous, au CRA de Léquin, donc c'est le CRA de Lille, il y a eu depuis le début de l'année 4 évasions. Trois personnes d'abord en janvier 2020 qui ont réussi à se faire la belle Et puis un quatrième, quelques jours plus tard, on réussit donc à s'échapper par les toits. Et là, ce que je vous propose, eh bien, c'est d'écouter une autre interview d'un retenu du Crâne Léquin. Interview qui a été diffusée dans son intégralité dans l'émission La Voix 100 mètres, vendredi dernier à 20h. Une interview qui, dans son format maximum, son format complet, fait 35 minutes. Ici, je vous passe simplement un court extrait de 3 minutes dans lequel eh bien, ce prisonnier évoque l'évasion de ces 4 personnes. Et vous allez voir, plutôt entendre, c'est assez savoureux.
Et moi, je me demandais, là, tu parlais de la Voix du Nord, tu sais, quand ils ont sorti les histoires d'évasion. Là. Tu crois que tu peux raconter vite fait comment ça s'est passé, comment les gens ils ont réussi à se tirer? Ou c'est chaud?
Là sur la zone où je suis, c'est en ordine. Du coup, sur la zone où je suis, il y a une partie, il y a une cour pour aller fumer. Et la cour, bon, bah, il y a un grillage sur le dessus. Et la plupart du temps, bah, les policiers, en fait, ils font quoi dedans, ils se foutent de leur gueule. La dernière fois, j'étais avec dans les bureaux de la PAF à Lille. Ils m'ont dit, ils se foutaient de leur gueule parce qu'ils ont vu les caméras de surveillance. Après, eux, ils ont revu. Comment ils sont évadés, les mecs. Et la partie où bah, soit on va manger ou on va fumer à côté, il y a un fumoir. Moi, je fume pas, donc les mecs, ils vont fumer là-bas. Et les policiers sont tout le temps assis là, ils bougent pas, ils sont sur le bon, ils sont sur leur smartphone, ils sont sur leur smartphone. Ils sont bloqués sur leur smartphone, ils s'en réveillent pas. Donc, du coup, les mecs là-bas, ils sont libres, ils ont fait quoi? Ils sont montés, ils ont coupé le grillage, ils ont coupé un peu le toit. Ils sont montés. Ils étaient trois à monter, ils ont monté à trois. Et du toit, en fait, ça donne directement accès au parking. Donc du toit, ils sont partis jusqu'au parking. Il y avait une voiture qui les attendait, une 406. Bah, la 406, ça s'est embourbée dans la boue. Mais ils sont barrés à pied quand même. Donc je prends là, ils sont barrés.
Ah, franchement, elle est belle cette histoire. C'est cool.
Bah ouais, archi drôle. Et du coup. Moi, la dernière fois, en fait, j'étais au commissariat, dans les bureaux de la PAF, là, à Lille, j'étais au commissariat, j'étais passé en garde à vue parce que je refusais de soumettre à une mesure, ben, je donnais pas mes empreintes, je leur dis, je donne pas mes empreintes, donc ils m'avaient mis en garde à vue, et je discutais avec les mecs là-bas, que c'était cool, hein. Moi, du coup, on avait des vidéos, on rigolait, ils me disent, tu sais qu'il y a un policier qui va être licencié, là, du coup, depuis, et en procédure de licenciement. Parce qu'au lieu de surveiller, il m'a dit, glands, il était là, il était assis sur son téléphone, il a rien vu du tout. Je dis pas, j'ai dit que c'est toute la journée comme ça, ça change pas. Donc voilà, ils sont barrés comme ça, et une semaine après, pareil, il y en a un qui s'est barré par le toit. En fait, il y en a deux. Il y en a un, il est monté, il est passé sur le toit, et le deuxième, il était en train de monter. Et au moment où il est en train de monter, il y a un policier qui passe. Et il le voit et il fait toi là. Et le mec, il était capuché. Donc le mec, il descend, il court dans une chambre, il se change pour pas que c'est lui. Donc lui, on l'a pas retrouvé, mais celui qui était sur le toit, bah, il s'est barré.
Ok. Et lui, on l'a retrouvé?
Non, toujours pas.
Ok. Bon, ça fait plaisir alors.
Ouais, bah ouais.
Cool.
Interview donc d'un prisonnier du centre de rétention de Léquin que vous pouvez écouter en intégralité donc dans l'émission La Voix 100 mètres qui a été diffusée vendredi dernier de 20h à 21h. Je précise rapidement que dans cette interview ce prisonnier explique que eh bien lui il a été directement cueilli par la police aux frontières à sa sortie de prison, donc ce qu'on appelle la double peine, c'est-à-dire qu'une fois purgé sa peine eh bien la police aux frontière est venu le chercher vraiment dès sa sortie pour le conduire en centre de rétention, et il explique de manière très claire à quel point tout est fait pour qu'il ne puisse pas se défendre, pour que les personnes, quand elles se voient notamment notifier une obligation de quitter le territoire français, ont 48 heures pour faire le recours, ce dont on ne les informe pas si elles ne lisent pas attentivement les 6 pages recto verso qui leur sont remis avec l'OQTF. Donc beaucoup de personnes eh bien, ne font pas le recours et se retrouvent avec eh bien, une obligation de quitter le territoire français qui eh bien, est mise directement à exécution. Donc ils sont enfermables en centre de rétention et puis expulsables. Et c'est un complet déni de la possibilité de se défendre et de faire un recours, sachant qu'il n'y a quasiment aucune juridiction dans lesquelles vous n'avez que 48 heures pour faire un recours. Le minimum pour la plupart des opérations, que ce soit devant un tribunal administratif ou pénal, eh bien, c'est un grand minimum de 15 jours quand on veut faire un appel ou un recours. Mais là, eh bien, législation spéciale pour les étrangers, les OQTF, ils n'ont que 15 jours, ce qui entraîne eh bien, de nombreuses personnes qui ne font pas le recours, alors qu'elles auraient toutes les raisons de faire sauter cette OQTF. Donc vous pouvez réécouter ça donc, sur le site de Radio Campus, campuslille.com, dans l'émission La Voix sans mettre, vendredi dernier, 20h-21h. Et puis je vous invite tout de suite eh bien, à écouter Brigitte Fontaine, qui nous parle de cette prison qui n'a pas toujours des murs de pierre, mais simplement des murs dans les esprits. Brigitte Fontaine, Patriarcat.
En direct, l'arbre de transmission, l'organisation du contrôle est une performance de haut niveau. Score 3-0. Ulysse a gagné, bâton Zorro et King Size est vainqueur à droite de votre écran. Impossible à Marie de remonter un tir contré de Gambetta.
Je suis triste et émerveillée. Le silence. Je garde le silence. J'habite là. Je le peux. C'est la dernière maison de la terre. À l'intérieur, il y a des arbres, de l'herbe, des ruisseaux. Dehors, du carreau, des murs, du béton. Sur toute la terre. Tu n'as pas froid. La terre va encore se refroidir. Réveillons. Réveillons, c'est le réveillon. Réveillons, c'est le réveillon. Réveillons nos soleils. Réveillons nos soleils. Ne suis-je pas prisonnière dans ma propre maison, dans la maison des hommes? Ne suis-je pas prisonnière depuis le jour où la nuit est venue? tu es un maton. Perds un peu la mémoire, et tu te souviendras de toi, de moi, du chaud, du froid, de maintenant. Oublie d'avoir raison, et tu comprendras tout. Tu ne perdras que ta prison. Tu ne perdras que ta prison. Perds un peu ta raison. Perds un peu ta raison. Je vous déclare la paix. Foutez-nous la paix. Foutez-nous la paix d'abord. Elle sera notre enfant. Comme quand on était petit. Tu n'es pas venu pour me tuer. Alors, ne me tue pas. Tu aurais trop peur. Tu aurais trop mal. Tu dois te bâtir des tombeaux blindés. Mais la bombe atomique, c'est toi qui l'as inventée en douille. Écoutez-nous. Croyez-nous, c'est le matin. Le matin. C'est le matin, c'est maintenant. C'est maintenant, c'est le matin. Demandez le matin. Demandez maintenant. Ah, la question, l'accusé est-il coupable des faits? Le jury a décidé.
Merci Brigitte Fontaine, sublime morceau paru sur l'album Vous et nous, intitulé donc Patriarcat.
On est en direct dans les Points sur les i sur Radio Campus Lille 106.6 FM ou www.campuslille.com. En direct donc en ce 3 février, 15e jour du mois de pluviose, dans le calendrier républicain français, officiellement dénommé jour de la vache. Voilà. C'est rigolo. Voilà. Vous avez le choix entre la Saint-Blaise ou le jour de la vache. Voilà. Sinon, le 3 mai 19... Pourquoi le 3 mai? Alors que c'est... Non, c'est le 3 février, c'est plus logique, Bibi. 3 février 1959, sinon ça n'a pas d'intérêt que je parle du 3 mai. Enfin, pourquoi pas, mais bon. André Malraux rattache le Centre National de la Cinématographie au tout nouveau ministère de la Culture. Créé en 1946, ce Centre National de la Cinématographie était jusqu'alors rattaché au ministère de l'Industrie. Si, si. Donc 59, ça y est, c'est rattaché à la culture. Et depuis 2009, eh ben, ça s'appelle le Centre National du Cinéma et de l'Image Animée. Ah oui. Et donc, j'ai, de ce fait-là, je suis allé piocher sur un texte de l'ami Pierre Merechkowski. Étant donné que, on peut comparer le cinéma, etc., et ben lui, il avait écrit un texte sur l'occupation de la Cinémathèque. Le 6 mai 2016, occupation de la Cinémathèque. Et Pierre a fait un communiqué de presse, je vous le lis. Ce communiqué de presse, comme tout communiqué de presse, est une présentation non objective et partiale. Si vous voulez sortir, vous sortez, mais vous ne revenez plus. Un poignant témoignage d'une ex-caissière de la Cinémathèque de Bercy. Elle créait un lien avec les habitués de la Cinémathèque et du jour au lendemain, elle a été virée pour cause d'externalisation de la Cinémathèque qui, selon le directeur de l'association Loi 1901 Cinémathèque française, SIC, se doit d'être rentable. Deux tendances s'expriment. une tendance syndicale qui demande la fin de la précarité du personnel de la Cinémathèque et un abandon des lois travail El Khomri. Une tendance politique, affirmant les lois travail on s'en fout, on veut plus travailler, on veut pas aménager le capitalisme, on veut un revenu d'existence universel. Deux tendances difficilement conciliables ? Je ne sais pas. Il est à noter que la tendance syndicale ne souhaite plus ou n'a plus les moyens de s'opposer à la tendance politique. Arrivée de la police. Le gradé policier demande le ou les identités des organisateurs responsables de l'occupation de la Cinémathèque. Nous avons répondu que nous étions tous organisateurs responsables. Rage. Le sous-directeur de la Cinémathèque Bercy a appelé la police. La police. Ils appellent la police tout le temps, dans les facs ou dans les agences dites Pôle emploi. C'est désormais systématique. Ils appellent la police parce que eux, pour nous, sommes dangereux. Nous sommes des terroristes en puissance. Et DRAC, CNC, Arte, Bono, directeur de la Cinémathèque Bercy, réalisateur, programmateur, producteur de films engagés, comment pouvez-vous programmer des ciné-tracts anarchistes, du cinéma libertaire, des films contemporains engagés et ne pas vous élever contre l'appel à la police ? Aussi, je vous demande de publier un communiqué dénonçant la présence policière dans les lieux de culture, dans les facs, les écoles de cinéma, les théâtres, la cinémathèque. La police, par sa présence, crée un climat de peur et d'angoisse, propice en ce sens à la violence engendrée par la peur. Personnellement, je me suis dit, ils nous ont enfermés, ils ne nous laisseront plus jamais sortir. J'ai vu des rangées de CRS, des portes fermées et la gare de triage toute proche de Paris-Bercy. Le policier m'a dit « Si vous voulez sortir, vous sortez, mais vous ne revenez plus. » Puis a ouvert la porte. La nuit, une allée surveillée par la vidéoprotection. Des arbres. Délire paranoïaque. Oui ? Non ? Dans la salle de la Cinémathèque de Bercy, prise de parole. Pas d'inscription, prise de parole. Pas de minutage, 3 minutes. Un cadre supérieur d'un service fiscal d'une banque a pris la parole pour dénoncer le soi-disant manque d'argent provoqué en fait par l'évasion fiscale. La question des cinéastes de gauche, qui à longueur de film appellent à de nouveaux rapports économiques, mais qui continuent à poser comme préalable l'efficacité, le nombre et donc les rapports de hiérarchie de classe dans un tournage, a été brièvement évoquée. Comment est-il possible de montrer des films, de débattre autour de films qui justement appellent au soutien des sans-papiers qui bossent ici ? Les autres, vous dégagez de la France ? Comment est-il possible de montrer des films qui prônent les valeurs de la résistance, de la responsabilisation de l'individu face au génocide programmé et en même temps appeler la police ? Comment est-il possible de projeter des films en appelant à une refonte de la société sur des valeurs plus égalitaires et appeler la police ? Comment pouvons-nous passer nos films sans nous interroger sur un dispositif qui appelle la police, sous-paye les employés, exploite les stagiaires, se verse des frais de représentation ? C'est cette absence d'interrogation de votre cadre professionnel qui fait croire à l'ensemble du corps social avec ou sans papier que toutes les idées se valent et que l'acte collectif désintéressé n'est qu'utopie, folie. La police, d'après ce que j'apprends, a effacé les photos et les films des portables des occupants, rappelant ainsi les pires actes de ceux qui voulaient effacer toute trace de mémoire. Festival de Cannes, festival en tout genre, tout format, petit et grand, Odéon, théâtre dit populaire, festival d'Avignon, SRF, SPI, CNC, Région, SCAM, SACD, Adami, SACEM. Vous qui dites lutter pour le droit de l'auteur, comment pouvez-vous tolérer que nos films soient effacés, détruits par la police ?
ou bien vos silences assourdissants sont la preuve que vous n'œuvrez que pour la défense de vos patrimoines enjolivés par mauvaise conscience, sous les termes rassurants de respect, valeur de la République bourgeoise, transmission et éducation populaire. Ou bien vos silences assourdissants sont la preuve que vous n'œuvrez que pour la défense de vos patrimoines enjolivés par mauvaise conscience, sous les termes rassurants de respect, valeur de la République bourgeoise, transmission, éducation populaire. Pierre Merezhkovski, communiqué sur l'occupation de la Cinémathèque le 6 mai 2016.
All wants for the best in a country of love and happiness. But one day they fall.
Assis à cheval sur mon petit pot, sillonnant l'océan Arctique. Autour des chevilles, mon petit bateau prenait des airs de Titanic. Leonardo DiCaprio ne collectionnait que les coliques. Quand déjà au milieu des flots, j'avais les oscartologiques. J'ai alors décidé,
il a alors décidé,
j'ai alors décidé de devenir acteur d'un film qui s'appellerait modestement Ma vie. Méfiant comme il se doit envers mes producteurs qui ne m'avaient jamais demandé mon avis. Ayant asservi mes peluches, un singe, un ours, un éléphant et trois panthères dans la coqueluche, c'était moi. Aïe aïe aïe. Les souverains de la maison voulurent remater cette jungle torride, me contraignant en grand garçon à commettre le régicide. J'ai alors décidé,
il a alors décidé,
j'ai alors décidé de devenir acteur d'un film qui s'appellerait modestement Ma vie. Méfiant comme il se doit envers mes producteurs qui ne m'avaient jamais demandé mon avis. Adolescent sourd comme un pot, je me faisais des films muets. Non, je bossais le scénario le soir, la force du poignet. J'ai alors décidé. J'ai alors décidé de devenir acteur d'un film qui s'appellerait modestement Ma vie. Méfiant comme il se doit envers mes producteurs qui ne m'avaient jamais demandé mon avis. Jusqu'à ce soir d'arrêt d'essai ou dans le noir d'une salle obscure, tu m'as avoué que je ressemblais quand même un petit peu à Ben Hur. Et voilà comment, sans un regret, je mis un terme à ma carrière. Pour une fois, j'avais du succès, sans un coup de main des frères Lumière.
Pour une fois, j'avais du succès, sans un coup de main des frères Lumière. Pour une fois, j'avais du succès, sans un coup de main des frères Lumière.
Lumière.
Rue du Terrier, 0320 51 56 51.
allez entendre une chronique davidique réalisée, enfin faite par Christophe, notamment sur son saison texte et son idée. Cette chronique davidique s'appelle CMU.
Tout français est branché, c'est ce que c'est que la CMU, bien sûr, la couverture médiatique universelle. Je veux bien sûr parler du festival de Cannes qui est en train de se tenir en ce moment et qui nous passionne tous, nous le savons bien. Alors le festival de Cannes est un événement très couvert médiatiquement et qui consiste à un décor. Je voudrais déconstruire le décor, il est assez simple. Vous avez un tapis rouge, c'est une couleur très importante, j'y reviendrai par la suite. Et puis vous avez des stars planétaires, interplanétaires, qu'importe, du monde entier bien sûr, et qui sont les mannequins, les fous du roi, qui se promènent avec une publicité vivante pour les grands couturiers, avec des bijoux qui sont prêtés, on descend de limousine. Vous avez bien sûr des barrières, devant les barrières, des policiers ou des gardes républicains, ça dépend du grand soir. Et puis derrière, le peuple qui se pousse, se presse pour pouvoir essayer de voir un visage, capter un visage, etc., etc. On aura bien compris. Il y a donc une abolition totale de la lutte des classes, comme tout le monde le sait, comme notre cher ministre de l'économie nous l'apprend. Il n'y a plus de lutte des classes, il ne faut plus y croire, c'est une hérésie, c'est une erreur, c'est une impasse. N'est pas. Tandis que là, c'est beaucoup plus simple, c'est la lutte des places, c'est la lutte des palmes, c'est la lutte des prix, c'est la lutte des images, c'est le choc des audiences qui est bankable, qui ne l'est pas. Soit la croisière s'amuse, mais si on doit attendre pour percuter que un bateau, une caravelle de migrants atterrisse en plein milieu du petit journal de Canal+, on aura beaucoup de mal à alerter les populations sur d'autres événements qui continuent de se passer sur notre petite planète et qui pourraient échapper à la communauté cannoise. C'est vrai que dans un temps où on nous explique qu'il est de mauvais ton que les communautés se dressent les unes contre les autres, là, enfin, nous avons une communauté qui se réjouit, qui se congratule, qui s'applaudit, qui se léchouille, qui s'embrasse, qui sème de temps en temps une petite larme d'émotion, bien sûr, parce que quand même, ce n'est pas donné à tout le monde pour la première fois de venir participer, être accrédité à ce spectacle. C'est très important, le terme accrédité. Dans accrédité, il y a crédit. Tout le monde n'est pas crédité. Et puis, ça dure 10 jours. C'est le Noël, c'est avant Noël, où on produit un monde de bons sentiments, où on oublie, on oblitère tout le reste, on ne parle pas d'écologie, il n'y a plus de guerre, etc. Tous les JT commencent par le Festival de Cannes, c'est une grande campagne de publicité. Que retenir de tout cela? Eh bien quand même, le rouge, ça ne vous dit rien, bleu, blanc, rouge. Ah, quand même, bleu, blanc, rouge, c'est pas rien, c'est quand même notre drapeau, c'est la couleur du peuple. Tout le monde peut consulter les dictionnaires d'histoire, c'est la couleur du peuple. Alors, il n'est pas anodin que ce soit la couleur du peuple qui soit foulée aux pieds devant les caméras, les photographes du monde entier, par les représentants d'une communauté tout à fait, honorable, qui, une fois par an, nous sort une thématique d'émotion. Un coup, c'est la vieillesse, un coup, c'est la famille, un coup, c'est le handicap, un coup, c'est la misère, mais à tous les coups, la première classe gagne, car comme le disait le grand prophète, n'est-ce pas, de l'oligarchie Warren Buffett, deuxième ou première fortune, je ne sais pas comment une bataille entre eux, avec le PDG de Microsoft, Bill Gates, 40 à 50 milliards de dollars au compteur, donc un homme qui pèse. Hein, le poids des mots, le choc des images, lui, c'est le poids du compte en banque. Sa devise favorite, c'était de nous dire, eh bien, lui, c'est pas le Festival de Cannes, c'est autre chose, c'est très simple. Il dit ceci, eh bien, la lutte des classes existe, elle existe, mais ma classe, celle des riches, est en train de la gagner, tout simplement. Voilà, alors bon festival.
Il n'est pas le sauveur suprême, ni Dieu, ni César, ni Prima.
Alors ça, c'est la poursuite de la vidéo, parce qu'en fait, c'est une vidéo sur les réseaux de vidéos, quoi. On va pas dire de marque. Mais ça continue avec des images de tous les milliardaires qui sont soit en rouge, soit qui foulent le tapis rouge, et puis leur fortune notée à côté. Mais donc, il y a des légers anachronismes dans ce que dit Christophe, même par rapport à la saison du festival, etc. Parce que c'est une chronique qui a été faite en 2015. Mais vu qu'il n'est pas présent autour de cette table ronde exceptionnellement, et bah, c'était bien quand même d'entendre sa voix. Et puis ça suivait bien avec le texte aussi de Pierre, vu qu'à un moment, il parle du festival de Cannes. À noter d'ailleurs que jeudi dernier, là, le 29 janvier, l'Académie des Césars a présenté les nominés pour les Césars. C'était où ? Tu sais, c'était où ? Bah, c'est au Phuket. Ils font un grand raout tous entre eux, machin, pour annoncer simplement les nominés des Césars de cette année au Phuket. Voilà.
Hein. Il n'a pas assez brûlé encore. Il reste encore trop de tables à l'intérieur. Enfin bon. D'ailleurs, ça m'évoque, puisque tu parles de Phuket, je n'en dirai qu'un petit mot, mais j'ai quand même été très désagréablement surpris, même si la surprise c'est du réchauffé, étant donné qu'on a régulièrement ce type de communiqué depuis plusieurs années maintenant. Hein. Je parle là du communiqué de l'intersyndicale qui incite la police donc à réprimer les casseurs, intersyndicale CGT, FO, FSU, UNEF, qui interpelle dans une lettre ouverte Christophe Castaner, pour lui demander de réprimer les casseurs en se justifiant que s'il y a de la répression policière contre les bons grévistes syndiqués dans les manifestations, c'est parce que il y a des casseurs dans les cortèges. Donc s'il n'y avait plus de casseurs, il n'y aurait plus de répression contre les grévistes. Alors déjà, il faudrait rappeler une petite chose, c'est que dans ces soi-disant cortèges de casseurs, moi j'y ai déjà vu et rencontré un certain nombre de syndicalistes, donc il faudrait peut-être que les centrales syndicales ne l'oublient pas. Et puis ensuite, il suffit de prendre l'exemple de mercredi dernier, où il y avait donc une manifestation qui partait depuis la porte de Paris, et alors qu'il n'y a eu absolument aucune violence lors de cette manif de la part des manifestants, eh bien la police s'en est donnée à cœur joie avec les lacrymos et a arrosé boulevard Victor Hugo au croisement avec la rue d'Oisem, généreusement, sans aucune justification, si ce n'est celle de leur hargne et leur désir à eux d'en découdre. Donc je pense que ces syndicats, avant de faire ce type de déclaration qui divise le camp de celles et ceux qui luttent, feraient bien de réfléchir à deux fois et d'arrêter toujours de se mettre du côté du manche, souhaitant activer avec la police le tonfa contre celles et ceux qu'ils qualifient de casseurs. C'est complètement honteux.
Qu'ils invitent à l'arrestation en amont de manifestation.
C'est ça. Donc, on sait très bien qui sait.
D'être peut-être simplement habillé en noir suffira à se faire arrêter, même si t'as rien commis. Donc c'est exactement les mêmes méthodes que les arrestations préventives qui existent depuis Sarkozy, en fait. Mm-hmm.
Ils oublient aussi, d'ailleurs, que c'est eux qui ont été visés par l'interdiction de flambeau. Lille est la seule ville où il y avait interdiction de flambeau lors de la manifestation de vendredi, non pas de la semaine dernière, mais de la semaine d'avant. Là aussi, il ferait bien de réfléchir à deux fois. Les flambeaux, je crois pas.
Ouais, mais il y avait eu aussi une belle action de désobéissance.
Absolument.
Voilà. Camion, voilà.
Et c'est justement plutôt vers ça qu'il faudrait se
tourner. Il faut pas mettre tout le monde dans le même sac, surtout pas les syndicalistes, par rapport aux centrales qui sont pas signées par des noms et des prénoms. Mm-hmm. Parce qu'il y en a aussi qui savent justement désobéir aux ordres du préfet Lalande quand il faut. Donc voilà.
Donc on ne peut que inviter les syndicalistes membres de ce type de syndicat à ruer dans les brancards contre leur direction qui signe ce genre de communiqué. C'est ce que, en tout cas, personnellement, je les inviterai à faire. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Campus, 106,6 de la bande FM, campuslille.com si vous écoutez depuis Internet, et puis le DAB+, non merde, DAB, DAB+, plus, DAB+. Oh là là,
je connais personne qui a ça, de toute façon.
Ouais, non, moi non plus, je suis toujours largué avec cette histoire de DAB-DAB. Voilà.
En fait, vu qu'on a, t'as quand même toute la première partie d'émission qui était autour des CRA, etc. Moi, j'avais prélevé dans le Canard enchaîné de décembre 2019, la chronique Coup de barre. Là, c'est signé Dominique Simoneau. Et c'est l'histoire d'un géorgien au tribunal de Lyon. Je sais pas si on peut se prendre
le temps. Si, bien sûr, vas-y, ouais, je t'en prie. Au contraire.
Alors.
Édifiant.
Le président ressemble au Père Noël. Et dans le box, Vaza, 35 ans. Tout pâle, et le type qui n'a pas de chance. abkhaze de Géorgie, il est à la prison de Korbass depuis 3 mois pour refus d'embarquer dans l'avion à destination de Tbilissi, capitale de la Géorgie. Hier, à 2h du matin, les gendarmes se pointent à la tôle pour l'escorter à l'aéroport. Les surveillants le réveillent. « Nique ta mère, ta race !» aurait balancé Vaza, aurait. Le voilà donc déféré pour ses injures et pour s'être maintenu en France malgré une interdiction du territoire. Car selon le rapport d'Armaton, il s'est sacrifié l'abdomen avec une lame de rasoir.
Scarifié.
Et saigné abondamment. Tout à fait. J'ai prévenu l'infirmerie et mon collègue a rempli les formalités. Le détenu a résisté. Nous avons dû le menotter. Il nous portait des coups et proférait des insultes. Fin de déposition du maton. Les surveillants, pourtant, l'estiment prêt à décoller. Pas les gendarmes, qui refusent d'emmener le blessé, maintenu fortement par 3 surveillants casqués, qui saignent et portent de nombreuses plaies sur son torse dénudé. Alors Vaza, l'abkhaze de Géorgie, écoute l'interprète et proteste. Donc là, c'est tout dans traduction. Hein. « J'ai pas donné de coups. Je m'étais tailladé. Je ne pouvais plus marcher. J'ai pas insulté. Je parle pas français. » Pourquoi vous êtes coupé ? Demande le juge. On m'a dit, il répond en géorgien traduit, tu es expulsé. J'ai dit non. En Géorgie, je ne resterai pas vivant. Je ne peux pas y rentrer. Nous le savons, monsieur, vous êtes déjà condamné pour ça, mais cela ne vous donne nullement le droit de rester en France. Je ne veux pas rester. Je voudrais partir ailleurs. Monsieur, il n'y a pas le choix, surtout après avoir été condamné pour refus d'embarquer. Je vous en supplie. Monsieur, étant abkhaze, vous seriez menacé dans votre pays, mais le tribunal n'est pas compétent pour examiner ce point. En Géorgie, Vaza était dentiste. Il dit « J'appartiens à l'opposition. La police voulait que je dénonce des amis. J'ai été torturé, incarcéré. » Le juge tranche « Monsieur, votre demande d'asile a été rejetée en procédure accélérée car la Géorgie est considérée comme un pays sûr. » Le président. « La PROC veut 5 mois. 2 de plus que la fois précédente. » « Tant que monsieur ne pliera pas, ça augmentera. » L'avocate bataille. « Il a si peur qu'il s'est fait vraiment très mal. Le tribunal connaît la question abkhaze et sa situation mérite d'être creusée. » Vaza essaie « Envoyez-moi en prison longtemps, mais pas la Géorgie, j'y mourrai. » « Votre destination n'est pas de notre ressort, » conclut le président Père Noël en lui collant 3 mois fermes.
Mmh.
Chronique du coup de barre du canard décembre 2019 par Dominique Simoneau.
Et malheureusement, chronique très ordinaire par rapport à ce qui se passe entre les prisons et les centres de rétention où les tribunaux administratifs se renvoient la balle entre tribunaux pénaux, tribunaux administratifs et tous en disant mais non, ça. Alors ils sont toujours d'accord pour enfermer les gens. Ça, c'est systématique. D'ailleurs, dans l'interview du retenu de Léquin, c'est très explicite. Ils sont toujours d'accord pour retenir les gens dans les centres de rétention. Et par contre, pour les libérer ou pour décider que ce serait un danger de les renvoyer dans leur pays, là, ils se renvoient tous la balle en termes de juridiction. Ah bah non, c'est pas de ma compétence, c'est pas de mon domaine. Et puisqu'on parlait d'un Géorgien...
Ils ont doublé, là, en très peu de temps, le nombre de jours la durée, maximum.
Oui, c'est passé de 45 à 90 jours avec la loi sur l'immigration. Ouais. Voilà une pensée pour Vaktan Enukidze, géorgien également, qui a été tué par la police italienne, battu à mort. C'était, je ne me souviens plus la date exacte, il me semble que c'était le 18 janvier, mais à vérifier. Des morts en centre de rétention, rien que depuis août en France, il y en a eu 5. Et là, donc, un en Italie, battu à mort, parce que les autres morts en centre de rétention, c'était plutôt des tentatives de suicide ou autre. On se retrouve la semaine prochaine et on vous laisse avec El Barrio Jazz. Bonne écoute sur